je n'ai pas compris un détail. La puissante immobilité d'un esprit mortel.
Hein? Qu'est-ce que tu n'as pas compris? Qu'un esprit immortel a une puissante immobilité. C'est ça que ça veut dire? Ça dit ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'un esprit immortel est nécessairement immobile et puissant, par le fait même qu'il est immortel.
Mais alors ici c'est dit, sa règle et non pas le contrôle du mental sur les impulsions vitales, mais la puissante immobilité d'un esprit immortel.
Oui, c'est la suite de quelque chose. Il y a une condition, non?
Une attitude qui change l'équilibre même de l'âme.
Oui, mais c'est une conséquence, mon enfant. Tu dois lire le commencement de la phrase si tu veux comprendre.
J'ai lu le tout, mais je n'ai pas compris.
Give me the light and the book. Où est-ce que c'est? C'est dans le second.
86, oui.
Voilà. Il dit ce dont le Gita veut parler. Il dit, le Gita a pour but quelque chose d'absolu, d'immodéré, d'un traitard, une tournure, une attitude qui change l'équilibre même de l'âme. Sa règle est non pas le contrôle du mental sur les impulsions vitales. La règle du Gita est la puissante immobilité d'un esprit immortel. C'est clair comme le jour. Le Gita exige la puissante immobilité d'un esprit immortel. Tout le reste, c'est secondaire. Ce que le Gita veut, c'est que l'esprit ait conscience de son immortalité et qu'en conséquence, il est une puissante immobilité, parce que c'est un fait, c'est comme ça. Quand l'esprit est conscient de l'immortalité, il devient d'une immobilité toute faite de puissance. Immobilité, c'est-à-dire il ne bouge plus. Mais c'est une immobilité puissante, ce n'est pas une immobilité d'inertie ou d'impuissance. C'est une immobilité puissante qui est une base pour l'action. C'est-à-dire que tout ce que l'on fait s'appuie sur cette immobilité puissante, toute puissante de l'esprit immortel, qui est immortel. Mais, n'est-ce pas? Il n'y a pas d'explication qui puisse vous donner ça, il faudra l'expérience. Tant qu'on n'a pas eu l'expérience, on ne peut pas comprendre ce que ça veut dire. Et c'est pour tout ça la même chose. La tête, là, le petit cerveau ne peut pas comprendre. De la minute où on a l'expérience, on comprend. Sans avant. on peut avoir une sorte d'imagination, mais ce n'est pas comprendre. Pour comprendre, il faut vivre. Quand tu seras consciente de ton esprit immortel, tu sauras ce que c'est que sa puissante immobilité. N'est-ce pas ça? Autrement, ce sont des mots. Je ne comprends pas comment on peut être immobile et puissant en même temps. C'est ça qui te gêne. Eh bien, moi, je te réponds que la plus grande puissance est dans l'immobilité. C'est la puissance souveraine. Et il y a une toute petite application superficielle que peut-être tu comprendras. Il y a quelqu'un qui vient ou vous insulter ou vous dire des choses désagréables, et si on se met à vibrer à l'unisson de cette colère ou de cette mauvaise volonté, on se sent tout à fait faible et démuni et on fait des bêtises généralement. Mais si on arrive à garder au-dedans de soi, et spécialement dans sa tête, une complète immobilité qui refuse de recevoir ses vibrations, alors en même temps, on sent une grande force et que l'autre ne peut pas vous déranger. Si on reste très tranquille, même physiquement, et que la violence vient vers vous par quelqu'un, et que vous êtes capable de rester très tranquille, très silencieux, très immobile, eh bien, ça a un pouvoir non seulement sur vous, mais sur l'autre aussi. Si vous n'avez pas toutes ces vibrations de réponse intérieure, si vous pouvez rester absolument immobile au-dedans de vous, partout, ça a une action, pour ainsi dire, immédiate sur l'autre. Ça te donne une idée de ce que c'est que le pouvoir de l'immobilité. Et ça, c'est un fait courant qui peut se produire tous les jours. Ce n'est pas grande chose de la vie spirituelle, c'est une chose de la vie matérielle, extérieure. Il y a un pouvoir formidable dans l'immobilité. L'immobilité mentale, l'immobilité sensorielle, l'immobilité physique. Si vous pouvez rester comme un mur, absolument immobile, eh bien, tout ce que l'autre envoie, ça lui retombera dessus, immédiatement. Et ça a une action immédiate. Ça peut arrêter le bras de l'assassin, tu comprends? Ça a cette force-là. Seulement, il ne faut pas avoir l'air d'être immobile et puis au-dedans être dans un bouillonnement. C'est pas ça que je veux dire. Je veux dire une immobilité intégrale.
Mais c'est la même chose que l'égalité d'âme.
Quoi donc? L'égalité d'âme.
C'est la même
réalité d'âme est un chemin. C'est un moyen, c'est un chemin. Ça peut être un but aussi. Mais ce n'est pas le couronnement. Par exemple, n'est-ce pas cette attitude des gens qui disent, qui professent que tout ce qui arrive est l'expression de la volonté divine. N'est-ce pas? Il y a toute une... J'ai parlé de ça la dernière fois, je crois. Il y a toute une façon de regarder la vie, de concevoir la vie, qui est comme ça, qui dit tout ce qui est, le monde tel qu'il est, tout ce qui arrive, est l'expression de la volonté divine. Par conséquent, la sagesse veut, si nous voulons être en relation avec le divin, d'accepter sans sourciller et sans la moindre émotion ou la moindre réaction tout ce qui arrive, puisque c'est l'expression de la volonté divine et qu'il est entendu que nous nous inclinons devant elle. C'est une conception qui tend justement à aider les gens à obtenir cette égalité d'âme. Mais si vous adoptez cette conception sans adopter son contraire et en faire une synthèse, eh bien, vous, naturellement, vous n'avez qu'à vous asseoir dans la vie et puis à ne rien faire. Ou en tout cas, à ne jamais essayer de faire un progrès au monde. Il est question de ça, je me souviens d'avoir lu dans la classe avant que ça ne soit notre classe de maintenant. Une classe qui était peut-être le mercredi aussi, je ne sais pas, mais dans laquelle je lisais des livres. J'ai lu une fois un livre d'Anatole France dans lequel il y avait un esprit très fin. Je crois bien que c'est le livre de Jérôme Cognat, mais je ne suis pas absolument sûr. Mais où il dit que les hommes seraient parfaitement heureux s'ils n'avaient pas le souci d'améliorer la vie. Je ne cite pas les mots exacts, mais l'idée est comme ça. Le malheur commence avec cette volonté de rendre les gens et les choses meilleures. Ça, c'est sa façon de dire une chose qui est justement la même chose que ce que je viens de dire, sous une autre forme. Si vous voulez être paisible, content, toujours satisfait, d'une égalité d'âme parfaite, il faut vous dire, les choses sont comme elles doivent être, et si vous êtes religieux, vous devez vous dire, elles sont comme elles doivent être, parce qu'elles sont l'expression de la volonté divine. Et vous n'avez qu'une chose à faire, c'est à les accepter comme elles sont, et à être bien tranquille, parce qu'il vaut mieux être tranquille que d'être agité. Lui retourne la chose et il le dit de l'autre manière. Il dit... la vie est très confortable et très tolérable et très acceptable si les hommes ne commençaient pas à vouloir qu'elle soit autrement. Et de la minute où ils ne sont pas contents, naturellement, les autres personnes n'est content. Puisqu'on trouve que ce n'est pas comme ça doit être, eh bien, on commence à être malheureux, les autres aussi. Mais si tout le monde avait ce bon sens de dire les choses sont comme elles doivent être, on meurt parce qu'on doit mourir, on est malade parce qu'on doit être malade, on est séparé des gens qu'on aime parce qu'on doit être séparé, et puis etc., etc. On est dans la pauvreté parce qu'on doit être pauvre. N'est-ce pas? Il n'y a pas de limite. Eh bien, si d'une façon complète, totale, on dit, eh bien, les choses sont comme elles doivent être. Ça n'a pas de sens d'en souffrir ou de se révolter. C'est une stupidité, n'est-ce pas? Ah, faut être logique. Alors nous disons que la misère commence avec la volonté que les choses soient mieux qu'elles ne sont. Pourquoi, quand vous êtes malade, vous ne voulez pas être malade? Vous êtes beaucoup plus malade quand vous ne voulez pas être malade, en étant malade, que si en étant malade, vous vous dites, bon, c'est la volonté de Dieu, j'accepte ma maladie. Au moins, vous êtes tranquille, ça vous aide à guérir peut-être. C'est comme ça. Et les gens pauvres, pourquoi est-ce qu'ils veulent être riches? Et les gens qui perdent leurs enfants ou leurs parents, pourquoi est-ce qu'ils ne veulent pas que ça soit? Si tout le monde voulait que les choses soient comme elles sont, tout le monde serait content. C'est un point de vue. Seulement, il se trouve que peut-être que la volonté divine n'est pas tout à fait comme ça, et peut-être que c'est comme, vous connaissez tous l'histoire de l'éléphant et de son, comment ça s'appelle? Celui qui conduit l'éléphant?
Cornac.
Son cornac. L'éléphant, son cornac et le brahmide sur la route qui refusait de se retirer du chemin de l'éléphant. Et quand le cornac lui a dit « Va-t'en », il a répondu « Non, Dieu en moi veut rester là ». Et le cornac lui a répondu « Pardon, mais Dieu en moi te dit de t'en aller ». Alors la réponse à Anatole France, c'est peut-être justement qu'il y a une volonté supérieure à celle de l'homme qui veut que les choses changent. Et alors, il n'a qu'à obéir et à les faire changer. Voilà. C'est tout.
Ici, c'est écrit dans le chemin des œuvres, l'action et les nœuds qu'il nous faut défaire en premier. Je n'ai pas compris pourquoi l'action.
Parce qu'on est attaché à l'action, n'est-ce pas? Le nœud, ça veut dire le nœud au point de vue égo. Vous faites l'action à cause du désir, il le raconte, n'est-ce pas? La façon ordinaire de faire l'action, c'est à cause d'un désir, sous une forme ou une autre, un désir, un besoin. Alors, c'est ce nœud-là. Si vous n'agissez que pour satisfaire un désir, un désir, ou, n'est-ce pas, ce que vous appelez un besoin ou une nécessité ou n'importe quoi. Mais au fond, si vous allez tout à fait au fond de la chose, vous voyez que c'est l'impulsion d'un désir qui vous fait agir. Eh bien, tant que vous n'agissez que comme un résultat de l'impulsion du désir, vous ne pourrez plus agir quand vous supprimerez le désir. Et ça, c'est la première réponse que les gens vous font. Quand on leur dit, faites l'action sans être attaché au résultat de l'action. Ayez cette conscience que ce n'est pas vous qui agissez, que c'est le divin qui agit. Alors, la réponse de 99,5 personnes sur 100, c'est, mais si je sens comme ça, je ne bouge plus. Je ne fais plus rien. C'est toujours un besoin, un désir, une impulsion personnelle qui me fait agir, d'une façon ou d'une autre. Alors, il dit, si vous voulez réaliser cet enseignement du Gita, la première chose à faire, c'est de défaire ce nœud. Le nœud qui attache l'action au désir. Si bien attaché que si vous retirez l'un, vous retirez l'autre. Alors il dit qu'il faut défaire le nœud pour pouvoir retirer le désir et continuer à agir. Et c'est un fait, c'est ça qu'il faut faire, il faut défaire le nœud. C'est une petite opération intérieure, n'est-ce pas, qu'on peut très bien faire. Et quand on l'a fait, l'opération, on s'aperçoit qu'on agit absolument sans qu'il n'y ait aucun motif personnel, mais mu par une force qui est plus haute que votre force égoïste, et plus puissante aussi. Et alors, on agit, mais les conséquences de l'action ne reviennent plus sur vous. Ça, c'est un phénomène de conscience merveilleux et tout à fait concret. N'est-ce pas? Dans la vie, vous faites une chose, quoi que ce soit que vous fassiez, bon, mauvais, indifférent, ça ne fait rien, ça. Quoi que ce soit que vous fassiez, a immédiatement une série de conséquences. En fait, vous le faites pour obtenir certaines conséquences. C'est pour ça que vous agissez en vue d'une conséquence. Par exemple, n'est-ce pas, si je mets ma main comme ça pour prendre ça, je cherche la conséquence de, tu vois, de faire du bruit dans le micro. N'est-ce pas? Et il y a toujours, toujours une conséquence. Mais si vous défaites le nœud et que vous laissez une force qui vient d'en haut ou d'ailleurs agir à travers vous et vous faire une chose, il y a des conséquences à cette chose et elles ne viennent plus à vous. Puisque ce n'est pas vous qui avez généré l'action, que c'est la force d'en haut. Et les conséquences vont là-haut. Ou alors elles sont guidées, voulues, dirigées, contrôlées par la force qui vous a fait venir. Et vous vous sentez absolument libre. Plus rien ne revient vers vous du résultat de ce que vous avez fait. Il y a des gens qui ont eu cette expérience, mais ces choses-là viennent d'abord dans un éclair, un moment. puis sa sortie. C'est seulement quand on est tout à fait prêt pour la transformation que ça vient et que ça s'installe. Eh bien, il y a des gens qui ont eu ça une fois, pour peut-être quelques secondes dans leur vie. C'est-à-dire qu'ils ont eu l'expérience. Et alors, le mouvement s'est retiré, l'état de conscience s'est retiré, mais le souvenir reste. Et ils imitent ça. Et quand par hasard ce sont des gens qui savent parler et qui peuvent faire des discours, et certains gourous qui ont des disciples, qui ils enseignent le chemin, ils leur disent ça, ils leur disent, quand c'est le divin qui agit à travers vous, et que vous avez défait le nœud du désir, vous n'avez plus aucune conséquence morale ni autre de ce que vous faites. Et vous pouvez faire n'importe quoi, vous pouvez assassiner votre voisin, vous pouvez violer une femme, vous pouvez faire toutes les choses que vous, n'est-ce pas, que le divin veut en vous, et vous n'aurez jamais une conséquence. Et en fait, ils le font. Ça, ils prennent l'expérience comme un manteau pour couvrir tous leurs débordements. Alors, ceci est dit en passant, pour se méfier des gens qui prétendent être quelque chose qu'ils ne sont pas, mais d'ailleurs le résultat est très simple parce que immédiatement ils subissent les conséquences de ça, de leur prétention. Ils disent qu'ils n'en ont pas, mais ils les subissent. J'ai eu un exemple très... très frappant de ça, d'un sannyasi qui était furieux contre quelqu'un qui ne voulait pas être son disciple, ce qui prouvait déjà qu'il était loin d'avoir réalisé cet état, et qui voulait se venger. Je n'écris pas cette histoire, elle n'est pas pour être répétée, et qui voulait se venger. Et en effet, il avait certains pouvoirs, il avait fait une formation très puissante pour détruire quelqu'un, la personne qui avait refusé d'être son disciple. Il se trouve que cette personne était en contact avec Sri Aurobindo. Et il lui a raconté l'histoire. Et Sri Aurobindo m'a répété l'histoire. Et le résultat a été que la formation de l'individu qui agissait avec la volonté divine, soi-disant, lui est retombée dessus de telle façon que c'est lui qui est mort. Et c'était simplement rien, n'est-ce pas, que de rétablir la vérité. Il n'y avait pas autre chose à faire. Alors, la morale de l'histoire, c'est qu'il ne faut pas prétendre, il faut être. Il faut être tout à fait sincère. Et ne pas couvrir ses désirs avec de belles théories. J'ai rencontré beaucoup de gens qui prétendaient avoir une égalité d'âme parfaite, et une liberté parfaite, et qui se cachait derrière cette théorie que tout est la volonté divine. Et et qui en fait substituaient dans leur pensée la volonté divine à la leur. Et était fort loin de réaliser ce qu'il prétendait. C'était des paresseux qui ne voulaient pas faire d'efforts et qui aimaient mieux garder leur nature comme elle était que de travailler à la transformer.
Mais est-ce que ces gens, ils ont des pouvoirs?
Il y en a qui ont des grands pouvoirs, mais ce sont des pouvoirs qui viennent du vital et d'une association avec des entités vitales. Il y a toutes sortes de genres de pouvoirs. Seulement, ces pouvoirs-là ne tiennent pas en présence de la... du vrai pouvoir divin, ça ne peut pas résister. Mais à l'égard des individualités humaines ordinaires, ils ont beaucoup de pouvoir.
Alors ils peuvent faire de mal
beaucoup.
Aux gens qui...
Ils ne peuvent pas, ils en font. Ils en font beaucoup. La quantité de gens qui sont harassés parce qu'ils ont eu le malheur de rencontrer un soi-disant sannyasi est considérable. Je ne vous dis pas ça pour vous faire peur parce qu'ici vous êtes à l'abri. Mais c'est un fait. En recevant l'initiation, ils ont reçu l'imposition d'une force du monde vital qui les harasse et qui est tout ce qu'il y a de plus dangereux. Ce n'est pas toujours le cas, mais c'est le plus souvent le cas. Parce que la sincérité est une vertu tellement rare dans le monde qu'il faut s'incliner devant elle avec respect quand on la rencontre. Sincérité, ce que nous appelons sincérité, c'est-à-dire une honnêteté et une transparence parfaite. Qu'il n'y ait nulle part quelque chose qui prétende, qui se cache, ou qui veut se faire passer pour ce qu'elle n'est pas. Quelque chose par là? Non. Rien? Plus rien? Bon.